Bienvenue sur le podcast Le Tour de France du Vivre Autrement. Pendant un an et demi, Maxime Chex a réalisé un Tour de France à vélo pour rencontrer celles et ceux qui vivent différemment. C'est-à-dire de façon plus collective, avec plus de faire ensemble et des pratiques plus respectueuses de la nature et de l'humain. Dans presque tous les lieux visités, il a interviewé plusieurs habitants et habitantes pour connaître leur parcours de vie, leurs valeurs personnelles et celles qui fédèrent le groupe. Il a aussi voulu avoir des réponses à des questions techniques sur la façon dont le collectif est organisé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce projet, rendez-vous sur le site tourdefrancedevivreautrement.com. Vous y trouverez des articles, des photos et des précisions sur la démarche. Bonne écoute!
Bonjour à tous. Je me trouve actuellement à la ferme de Tanga, la toute première étape de mon voyage, une ferme maraîchère dans le Perche, dans l'Orne, en Normandie. Le terrain se trouve au sommet d'une petite colline sur la commune de Longny-au-Perche. Lola et Fabien y vivent dans deux yourtes reliées par un passage avec leurs deux enfants. Et je suis avec Fabien pour l'interviewer. Je précise que nous avons des spectatrices, à savoir Lola et Chloé, une woofeuse comme moi. Fabien, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va commencer par une question facile. Tu as quel âge ?
37 ans.
C'est vrai ?
Oui.
D'accord. Ok.
Je ne sais pas dans quel sens t'es surpris.
Non, parce que Lola, elle a 31, c'est ça ?
Ouais.
D'accord. Ok. Très bien. Bah, du coup, voilà, comment t'as eu l'idée et l'envie de te lancer dans le maraîchage ? Et maraîchage bio, en plus ?
Le bio, c'est une évidence.
Ouais.
Je me voyais pas me lancer à faire des légumes si c'était pour leur balancer des saloperies à la gueule.
D'accord.
Pourquoi le maraîchage? C'est un cheminement. Je pars d'informaticien.
D'accord.
À la base.
Ouais.
Je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Que j'allais pas aller jusqu'à la retraite avec ce boulot là. Mais sans forcément à pousser la réflexion plus loin. Et puis j'ai rencontré Lola, elle qui est très nomade et très on change de vie, on fait beaucoup de choses.
D'accord.
Enfin, en tout cas, on bouge les lignes souvent.
Oui.
Ce qui n'était pas forcément mon cas avant. Et du coup, travailler dans le spectacle pour une compagnie. Très vite, le spectacle est parti sur un tour d'Europe. Du coup, elle est partie avec.
D'accord.
Donc, on est parti en camion. Moi, j'ai lâché mon taf que je faisais en plus pour mon propre compte. Donc, c'était très facile d'arrêter.
D'accord.
Très rapide. Après, t'as le temps de la réflexion, en fait. Le voyage te permet ça.
D'accord.
Peut-être ça t'arrivera.
Oui.
Mais en fait, t'as le temps quand t'es pas sur une tâche, sur un...
Ah oui, le voyage, oui. D'accord.
Toi, ça te permet... Quand t'es au volant de ton camion et que tu roules pendant 3 heures, quand t'as épuisé tous les sujets de discussion du moment, il y a un moment, tu restes avec toi-même et puis tu réfléchis à comment tu veux remplir tes journées à l'avenir, quoi. Moi, mes grands-parents étaient tous agriculteurs. Mes parents ont un grand jardin. Donc, j'étais constamment baigné dans au moins la nature et sinon le domaine agricole. Et puis, au fur et à mesure, tiens, on va faire pousser des légumes. Enfin, on parlait d'autonomie avec Lola, donc faire pousser des légumes, avoir des poules, vivre dans un petit logement qu'on peut facilement... maintenir, enfin tu vois, quand il y a une réparation, tu sais à peu près tout les faire.
D'accord,
on était parti avec une idée d'autonomie et moi j'ai fait une formation dans le maraîchage et là c'est parti en couille, on a fait grande surface et tout, enfin grande surface, on a que là cette année 5000 m², c'est pas non plus, tu vois, certains autres maraîchers c'est rien, on a des collègues qui ont 3 hectares, tu vois.
D'accord.
Dans le coin.
Mais tu disais quand même que tu étais un peu un gros parmi les petits, puisque tu es
obligé d'aller à Mortagne.
Oui, parce que
depuis, en fait, il y a d'autres maraîchers qui sont installés sur des surfaces plus petites.
D'accord.
C'est pour ça que je suis le gros du secteur, mais si tu vas un peu plus bas dans le Perche, comme je te dis, il y en a un à à 3 hectares. Il y en a un autre qui est à côté qui est à 1 hectare, 1 hectare 5, je ne sais plus.
D'accord. Enfin, tu vois, en bio aussi, ouais.
Ouais, en bio. Ouais. Et eux étaient là avant ou juste avant moi. D'accord. Et toi, sur des systèmes plus classiques avec le tracteur, etc. Ah oui. Donc eux, comme moi, je suis arrivé, j'étais un des plus petits. Mais avec la nouvelle vague de maraîchers qui arrive, avec le MSV, parfois la permaculture. D'accord. Pour certains,
ouais.
Les surfaces sont beaucoup plus petites parce que t'es à pied, quoi. T'as pas un tracteur qui va te labourer une parcelle d'un demi-hectare, quoi. Dans le coin, là, dans les 15 km à la ronde, je suis un des plus gros. Mais
d'accord, ouais.
C'est tout est relatif, quoi.
Ouais. Ok. Et le fait d'être ici à Longny, c'est volontaire ou c'est parce que vous avez trouvé un endroit ici?
Bah c'est parce que quand Claude, le grand-père de Lola, a su que je faisais une formation de maraîchage, donc agricole,
ouais,
et que j'étais le plus proche de lui dans sa descendance qui se mettait à l'agricole. Il s'est dit, tiens, faut que je saute sur l'occasion, il faut que je les mette à côté de chez moi parce que tous ses enfants sont partis à la ville, ses petits-enfants sont assez loin aussi. Et je pense qu'il s'est dit, tiens.
Le grand-père de Lola, tu dis.
Ouais, ouais, le grand-père de Lola. Bah, on est sur son terrain ici.
D'accord. Ah oui, tu disais que tu louais, ouais.
C'est ça. Ouais. Et donc, il s'est dit, tiens, il y a de la famille qui peut revenir. Je pense qu'il s'est dit ça dans sa tête, j'en profite et puis. Je leur propose tout de suite le terrain pour un loyer qui est dérisoire pour les attirer, quoi. Parce que le problème en agriculture, quand tu es sur grosse surface, quand tu es sur plus petite comme nous, c'est plus simple, mais c'est difficile de trouver le bon terrain pour pouvoir faire du légume pour nous. Là, on est sur un limon argile qui est plutôt pas mal. Ça manque d'eau, mais voilà, on est sur un terrain qui s'y prête bien, donc il a sauté sur l'occasion, et nous aussi, parce que le lieu où on est a plusieurs défauts, mais il avait l'avantage d'être libre tout de suite, quoi.
D'accord, ouais. Il avait déjà ce terrain, il vous l'a proposé,
quoi. Ouais, il l'a depuis, qu'il est installé ici, donc ça fait, ça fait plus de 35 ans maintenant.
D'accord. Et lui, il habite où?
Claude, il habite là, dans le hameau, il est à 200 mètres, quoi. C'est pas... la ferme qu'on voit là par...
Mais c'est pas le voisin, c'est pas Claude avec les ânes, avec les chevaux et...
Bah, Claude, le voisin avec les ânes, c'est Claude, le grand-père de Lola.
D'accord.
C'est le même.
Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, j'étais pas... très bien. Et quand vous êtes arrivé, alors c'était juste
de l'herbe.
Ouais, c'est
juste de l'herbe juste et de l'herbe. Une clôture.
D'accord.
Tout ce qui fait plus de 30 cm de haut, c'est nous qui l'avons mis là.
Ouais, très bien. Et du coup, la yourte, ça c'est comment vous en êtes venu à ça?
Eh bien, quand on est arrivé, on était dans le camion. Qui nous a permis, dans lequel tu dors, qui nous a permis de faire tour d'Europe. Donc, quand j'ai fini ma formation à Rennes, on a quitté la loc dans laquelle on était, et puis on est arrivé ici.
Ouais.
Donc, le camion était déjà aménagé, donc c'était facile d'y vivre. On était juste à côté de chez Claude. Et puis, un jour, Lola est tombée enceinte. Mmh. On s'est dit au début... Ouais, à trois dans le petit camion, ouais, ça va passer. Et puis au bout d'un moment, on a fait, non, mais là, l'hiver, ça va pas être possible, ça va pas être gérable.
Ouais.
Il va faire trop froid, enfin, pas avec un gamin, et puis la tonne de fringues.
Ouais. Et de matériel.
Et de matériel, etc. On a fait, non, ça va pas le faire.
Ouais.
Donc, entre le moment où on s'est dit, ça va pas le faire, et le moment où on a chopé la yourte, enfin, on a pu rentrer dans la yourte, il s'est passé 3 mois.
D'accord.
Entre le moment de dire on va en yourte, on trouve sur Bon Coin, on ramène. C'était un gars qui la vendait sur le Bon Coin parce il avait eu un souci avec un autre client, c'était un pro, tu vois, qui monte des yourtes.
D'accord. Ah ouais.
Du coup, on l'a eu pour pas cher. Il est venu la monter, etc.
Mm-hmm.
Bref, le temps de trouver quand même les sous parce qu'on n'avait pas trop de sous d'avance.
Mm-hmm.
Voilà, le temps de tout mettre en place, de creuser la tranchée, de machin, de monter la yourte, c'est passé 3 mois, quoi. D'accord. Entre le moment où on s'est dit, tiens, on va vivre en yourte. Et tiens, on vit dans une yourte. C'est passé juste 3 mois.
D'accord, ouais.
Ça aurait pas été gérable de...
Ouais.
De faire autrement, quoi. En étant le plus proche possible de la parcelle, parce que t'as des maisons dans le hameau, mais... soit c'était à vendre, soit il y en a toutes, elles sont toutes prises, quoi.
Ouais.
Nous, on voulait vraiment être sur place, quoi.
D'accord. Et c'est aussi parce qu'il vous fallait quelque chose rapidement que vous avez l'idée de la yourte.
Ouais.
D'accord. Et ça se passe bien, ça va, c'est...
Bon, on a des galères, enfin, il y a... Comme dans n'importe quelle maison, tu vois.
Bien sûr.
Récemment, il y a eu une fuite d'eau, on a réparé. On a parfois... quand il pleut, au niveau du tonneau, il y a des fuites, l'eau a réussi à rentrer, pour serrer le tonneau. C'est des petites galères, mais par rapport au confort de la yourte.
Il n'y en a pas beaucoup plus que dans une maison normale.
C'est pas pire.
C'est pas pire.
Non.
D'accord. Très bien. Et elle fait quelle surface ? Ça fait quelle surface, une yourte ?
Alors, tu es sur une yourte. Du coup, maintenant, 2 yourtes de 7 mètres de diamètre. Donc, tu es à 38-39 mètres carrés de surface circulaire. Tu as un petit mètre carré de tunnel, là, de couloir. Donc, on est sur quasiment 80 mètres carrés, quoi. Plus la mezzanine. Ouais, mais c'est pas loi machin.
Carrez.
Mais c'est sûr que oui, on a la mezzanine qui fait 7 mètres carrés. Donc ça permet de gratter un peu. Et on va en remettre une dans la deuxième yourte pour encore gratter un peu d'espace.
D'accord.
Parce que concrètement, sur la mezzanine, c'est les lits.
Mais c'est tout, ouais.
Tu dors à l'horizontale, donc t'as pas besoin de verticalité. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas de limite. Ouais. De vivre ici, on s'est pas dit, faudrait quand même vivre dans une maison en pierre. Ça nous donne pas du tout envie de vivre dans une maison en pierre. Quand t'as goûté au bois, au textile, au rond aussi, peut-être que la forme ronde joue aussi. Non, et puis le côté pierre qui fait résonner les sons, alors qu'ici le son, soit il est absorbé par les murs, soit il se diffuse dehors. C'est bien, tu peux appeler ton chien qui est à l'extérieur, et tu es à l'intérieur.
Ouais.
C'est très pratique.
D'accord.
Ou tu peux te parler.
Ouais.
C'est très bien.
De part et d'autre.
Mais on n'a pas de limite de temps de vivre en yourte, quoi.
Ok.
Il y aurait des améliorations à faire. Enfin, Lola, elle voit des trucs. D'enlever les toiles, de mettre, de barder en bois.
Ah bon, ça se fait l'intérieur.
Ça peut, ouais. On n'est pas sur une yourte qui est tout à fait ronde. Elle est tétradécagonale.
Oui.
Elle est à 14 côtés.
Ouais.
Du coup, entre les côtés, il y a moyen éventuellement de barder en bois.
Ah ouais.
Ce qui ferait un truc peut-être plus pérenne qu'une toile qui peut se choper en champi. Enfin, qui se délabre en fait.
Ouais, ouais.
Qui coûte un peu cher. Donc, c'est... Ce sera des améliorations à l'habitat, mais on ne se voit pas vivre dans une maison en cailloux, quoi.
D'accord.
Ah, toi, tu... Ah,
révélation, en direct.
Indirect. Quoi ?
Quoi, tu vas pas vivre ?
Quoi, tu vas...
Bien. Et du coup... Mais du coup, ce serait du bardage jusqu'en haut ou...
Le toit, c'est compliqué parce que tu peux pas faire porter un poids énorme sur la toile, enfin sur la structure. Donc, au moins les murs, quoi. On a quelques infiltrations d'eau au niveau de la fenêtre qui est sud-ouest, donc qui est en face de la flotte. Et c'est pas une fenêtre là.
Tu parles de laquelle ?
Celle-là, ouais. Ouais. C'est pas la plus ouf, quoi. Enfin, c'est du brico-dépôt, quoi.
D'accord. Enfin,
c'est pas cher, quoi.
D'accord.
Donc, il y a des fonds.
Et du coup, puisqu'on parle de prix, elle vous a coûté combien, la yourte ?
Eh ben, c'était il y a 5 ans et demi maintenant. Ouais. Ça coûtait pas encore le prix que ça coûte maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans le domaine.
Ouais.
Et du coup, les prix ont augmenté parce que parce que les mecs veulent se faire un salaire, en fait. Et puis que c'est dans l'air du temps et que, ouais, et que c'est beau et que t'as une clientèle parfois un peu huppée qui va là-bas, qui va sur ce genre de,
ah oui,
sur ce genre d'habitat. Donc les prix augmentent, quoi. Tout ça fait que les prix augmentent. Donc nous, la première, on l'a eu à un moment donné où ça coûtait pas encore trop cher. Mmh. Donc on l'a eu à 13 500. Le gars est venu des Hautes-Alpes. Mmh. Avec le matos, il a fait venir un pote à lui pour tout ce qui est mise à niveau, mmh, et le plancher. On a aidé au montage de la yourte, mmh, parce qu'il fallait quand même beaucoup de bras. Mais ils sont venus, ils ont monté, ils ont fait la mezzanine aussi. La mezzanine, d'accord, était comptée avec.
Okay.
Tout ça pour 13 500. Donc les matériaux et l'aide au montage.
D'accord.
Tu trouveras jamais plus un prix comme ça.
Ok, ouais.
Et la deuxième, du coup, c'est nous qui l'avons faite. On l'a auto-construite, ah, avec, ouais, mon cousin, qui est, ouais, menuisier,
ouais,
qui est très gentil et qui ne nous a pas demandé trop cher. Et qui était curieux de fabriquer une yourte. Parce que, en fait, on a trouvé un logiciel qui permet de fabriquer les plans. Enfin,
les pièces, ouais.
Pardon. Ouais, en fait, tu sais, tu choisis le nombre de côtés de ta yourte, mmh, sa dimension, enfin ça, son diamètre, sa hauteur, etc. Et en fait, au fur et à mesure que tu fais bouger les curseurs, bah, tu vois la structure 3D qui évolue.
Ah ouais.
Et donc, une fois que tu as choisi tous tes paramètres, ça te dégueule le métrage de bois,
la taille des pièces,
les angles, les angles pour poser les perches les unes sur les autres.
Ouais.
Et quand il a vu ce document-là, là, avec toutes les mesures et tout, il a fait bon, facile quoi. C'est pas, il y a juste la tête des perches au niveau du tonneau où t'as un angle particulier. Ouais.
La forme. Ouais.
Ouais. La forme est un peu particulière.
Ouais.
Où là, c'était un peu technique. Il a dit, c'est le point crucial parce qu'en plus, bah, c'est le toit,
ce
quoi.
Fait que ça tienne,
et c'est, tout, tient, quoi. C'est tout se tient ensemble, sans perche, enfin sans mât. Il a dit, là c'est un peu technique, par contre tout le reste, les poteaux, les croix, mmh, de Saint-André, la sablière, tout ça c'est facile quoi. Ça va prendre du temps à faire parce que c'est des tiges de 4 mètres pour les plus grandes, mais il a dit techniquement c'est facile quoi.
D'accord, il se sentait confiant, et le résultat, ouais, est pas
il mal, était, ouais, confiant sur la fabrication des pièces. Il avait un peu les miquettes quand il fallait les placer in situ quoi.
Ah, ouais. Mmh.
Donc, mais voilà, ça, on l'a fait tous ensemble avec nous qui connaissions la façon de monter la yourte,
oui,
et
oui,
lui qui avait la technique bois et construction, quoi. Donc, okay, ouais, tout ça réuni, plus des bonnes volontés de potes à droite à gauche, ouais, et ça s'est fait dans des conditions climatiques absolument chaotiques.
Ouais.
Genre, quand il fallait creuser le trou, c'était canicule. Quand il fallait, mmh, utiliser les outils, il y avait un orage, plus d'élec.
Ouais.
Quand il fallait poser le parpluie et les bâches, il y avait du vent. Non, mmh, quand il fallait mettre l'isolant, il y avait de la pluie. Quand il fallait mettre, mmh, la bâche, il y avait du vent.
Mmh.
Ça a été long.
D'accord. Ouais.
Ça a été un peu éprouvant, quoi. Mais bon, ça s'est fait, quoi.
Ouais.
Elle est montée, elle est hors d'eau, hors d'air, et on y vit bien dedans, quoi. Les mômes dorment bien, parce que c'est leur yourte. Donc,
et quand tu dis 13 500, ça comprenait l'eau et l'électricité aussi, ou pas ?
Non, ça a été ajouté après.
Ouais.
Ça a été ajouté après. Je saurais pas dire combien. Après, le truc, c'est que... quand tu fabriques ce genre d'habitat, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, tu montes ta maison, donc tu fabriques tout à l'intérieur, quoi. On a fait la cloison de la cuisine. Bah, c'est aussi mon cousin qui nous a fait l'escalier, parce que là, c'est quand même, mmh, un truc assez technique. Mais on a aidé au montage de la cloison qui tient l'escalier. En fait, tu fabriques tout. Enfin, moi, c'est ma philosophie, c'est que dans ce genre de maison, tu fabriques ta maison, donc bah, tu vas aussi faire les lecs, tu vas aussi faire les, la plomberie. Bon, la plomberie, c'est des tuyaux plastiques avec des raccords compression, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc de plombier où il faut...
chalumeau.
Ouais, le chalumeau, le truc comme ça. Là, c'est que du tube plastique. Il n'y a pas de métal. Donc, c'est facile à maintenir, tu vois.
D'accord.
Bah, tu nous as aidé à réparer, la, à réparer l'évier.
Ouais.
Tu l'as fait, j'aurais pu le faire. Enfin, je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Il y a quelques semaines, j'ai vu une fuite sur l'arrivée d'eau derrière la yourte. J'ai vu où ça merdait. Je savais exactement quelle pièce il me fallait, dans quel diamètre, etc. Parce que c'est des montages qui sont simples. Toute l'électricité, tous les câbles, je sais... bon, je me suis mis des pinces bêtes sur les bouts des fils, mais je sais dans quelle direction vont les fils, quel fil va à quel endroit. Et donc, si s'il y a un bout du réseau électrique qui fonctionne pas, je sais où aller réparer le tableau, un tableau électrique. Avant de faire celui-là, je savais pas du tout faire un tableau électrique. Maintenant, t'as des vidéos sur YouTube d'électriciens. Tu regardes le mec faire, il prend un fil, il le met dans le plot, il prend le fil, il met dans le plot. T'es là, tu regardes, tu fais, ah c'est tout. En fait, c'est pas compliqué. Il suffit juste de comprendre. À quoi sert un interrupteur différentiel, chaque fusible, de savoir que tu mets les lumières sur tel ampérage, que tu mets les prises sur tel ampérage, que quand tu as une machine à laver, bah, c'est un fusible pour chaque machine à laver, le linge, la vaisselle et tout. Une fois que tu as compris ça, c'est relativement facile à comprendre pour celui qui veut s'y intéresser et veut comprendre... comment fabriquer sa maison, quoi. C'est des montages très très simples. C'est pas, tu vois, on a des prises électriques, des lumières, quelques machines à laver, puis c'est tout, quoi. Ouais. Les réseaux sont très simples, donc
Tu y as un peu répondu, mais ce choix de vivre simplement, c'est pas quelque chose, vous diriez que ça vous avait été transmis par vos parents ou c'est venu de tes réflexions?
Mes parents, c'est pas des gens compliqués, hein. Ça a toujours été vie simple, hein. Ils sont issus de la ferme, ils sont allés à la ville pour le boulot, à la maison, bon, c'est un schéma très classique, mais mon père fait les légumes, ma mère fait les conserves, tu vois, enfin, il y a ce truc de, on n'a pas trop de sous, donc comment on fait pour en gagner? Faut fabriquer... faut fabriquer sa bouffe, quoi. Fabriquer le manger, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas été élevé dans autre chose que ça.
Ouais.
Donc, ouais, forcément. Après, c'est très drôle parce que tu vois, moi, j'ai une sœur.
Ouais.
Elle est dans, je veux pas dire l'extrême inverse, mais elle est dans la société de consommation où. Tout. Elle est vraiment à l'envers dans quoi je suis. Donc tu vois, on a été élevés de la même façon, mais on n'a pas on n'a pas la même façon de penser et c'est assez
incroyable. Elle est plus jeune ou plus âgée?
Elle est plus âgée. Mais du coup, ouais, le fait de vivre en yourte, pour moi, c'est pouvoir maîtriser. Là où je vis, c'est pouvoir dire, ok, il y a un problème là, ben je vais aller regarder. Et puis si je sais pas, si j'arrive pas à comprendre, je vais appeler quelqu'un de compétent. Et par contre, quand il vient, je vais regarder ce qu'il fait, ce qu'il regarde, enfin comment il jauge le problème. Et après, ben, comment il le règle, ça vient assez naturellement. Mais de maîtriser son habitat, bah au moins c'est une quête d'autonomie, tu vois. C'était notre but à la base, c'était l'autonomie. Donc l'autonomie alimentaire, ça je savais comment faire, pas forcément dans tous les détails, mais je savais comment on faisait ce genre de choses. L'autonomie électrique, l'autonomie plomberie, ça je savais pas, j'ai appris en faisant, quoi. j'avais jamais posé un chauffe-eau de ma vie dans une maison. Bon, le chauffe-eau, il fait 20-30 litres, tu vois, c'est pas un gros truc. J'ai réussi à le poser, à le mettre tout là-haut et à brancher les fils. Pareil, avec, c'est con, mais les tutos YouTube, tu trouves de tout, mais tu trouves aussi des bons tutos propres, clairs, de mecs qui savent faire. J'ai acheté tout le matos, enfin, tu vois, derrière le...
C'est vraiment...
t'as un mitigeur, t'as le truc des raccords, comment tu raccordes de tout, où est-ce que tu mets les joints, comment tu fais ça, enfin... Tu trouves pas mal de bons trucs maintenant sur Internet pour faire toi-même. Là, la prochaine étape, ça va être de faire un poêle de masse pour l'eau turque, parce que là, elle n'est pas équipée en chauffage. On se tape des vidéos YouTube sur des poêles de masse parce que t'en as autant de différents que de mecs qui en construisent, quoi. Mais t'as des grands principes sur chacun des, enfin, qui se retrouvent sur chacun des trucs.
D'accord.
C'est ça, c'est la quête d'autonomie, c'est de pouvoir faire et avec rien, quoi.
Ouais.
Là, le poêle de masse, ça va être avec des extincteurs. Enfin, en tout cas, la dernière version. C'est pour ça les extincteurs là-bas dans le. C'est de la récup, ça coûte que dalle parce que ça va coûter des légumes ou des plants ou je sais même pas, ou rien. Rien, ils n'ont rien coûté. Parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans la sécurité incendie.
Ça, c'est
trop le bon plan.
Non, mais j'en parle à mon pote.
Et puis, voilà, c'est. Tout ça, ça fait partie de la quête d'autonomie. Tu vois, on a des poules. Des fois, on fait des poulets. Tu vois, si tu veux de la viande, faut aller zigouiller les poulets, tu vois. C'est un truc dans lequel. On s'est lancé, mais parce qu'on veut bien, tu vois. Sinon, la quête d'autonomie. Ouais.
D'accord. Bon, je te remercie.
Bonne journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il vous ait inspiré. Si ce podcast a attisé votre curiosité, n'hésitez pas à consulter le site tourdefrancedivivreautrement.com. À bientôt pour un nouvel épisode. Réalisation, Maxime Chex. Voix off, Marion René. Et musique improvisée à l'éco-village de Pourgues.